L'homme à l'oreille coupée de Jean-Claude Mourleva par les élèves de 6e E du collège Jean Rostand.
Il y avait dans un port de la Norvège un très vieil homme à qui il manquait une oreille. « Comment l'as-tu perdu ?» lui demandait-on dans l'auberge où il venait chaque soir. Et il répondait volontiers. « Oh, ça remonte à loin, » disait-il. « J'étais encore un petit garçon, j'avais 9 ans à peine. Alors voyez, un cirque ambulant est passé dans notre village. Ça ne coûtait pas très cher. » Mais nous étions pauvres et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée. Alors, le soir de la représentation, j'y suis allée en cachette. Je me suis faufilée sous la toile du chapiteau, ni vue ni connue, et j'ai pris place dans les gradins.
C'était plein à craquer, la musique assourdissante, l'odeur forte des animaux. Tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les caniches dressées. J'en restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi qui n'avais jamais rien vu.
Enfin, le directeur du cirque a annoncé un numéro de fouet. J'ai oublié le nom de l'artiste, Pachito, Pancho, un nom comme ça. Il s'est avancé, dans sa tenue de cow-boy, accompagné de son assistante à maillot de bain. Et clac, clac, ça a commencé. D'abord, l'assistante a mis une longue cigarette de papier dans sa bouche. Clac, au premier coup de fouet, la cigarette a perdu 1 cm. Clac, à chaque coup, elle en perdait un de plus. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un minuscule mégot. Alors, elle a avancé ses lèvres maquillées de rouge, comme pour donner un baiser. Puis, elle a légèrement basculé la tête en arrière, pour ne pas se faire couper le bout du nez, je suppose. Il y a eu un roulement de tambour, et clac, le mégot a volé.
Ensuite, ils ont demandé un volontaire. C'est juste à ce moment-là que j'ai vu un camarade d'école en face de moi, de l'autre côté de la piste. Il me faisait des grands signes. J'ai levé le bras pour vous répondre, et ils ont cru que je voulais venir.
Ils m'ont mis une cigarette de papier dans les oreilles, une dans chaque, et clac, clac, de quoi vous rendre sourd. Les gens applaudissaient et riaient aussi, sans doute à cause de mon air ahuri. Et puis tout à coup, j'ai entendu « Wow !» Ça faisait comme une vague dans les gradins. L'assistante s'est aussitôt évanouie et quelques spectatrices aussi.
J'ai senti quelque chose de tiède qui dégoulinait dans mon cou. J'ai passé la main, c'était mon sang. Alors j'ai compris. J'ai regardé par terre et j'ai vu mon oreille, là, dans la sueur. J'ai oublié la suite. Je me revois transportée dans des bras étrangers. Je revois des gens très flous qui me tiennent les mains. Je revois surtout ma mère qui pleure et mon père qui lève les bras au ciel. « Ah, ce gamin, ce gamin !» Voilà comment j'ai perdu mon oreille. Ça vous évitera de le demander la prochaine fois.
Le lendemain, il disait « Mon oreille, oh, j'avais 27 ans et j'allais me marier. Ma petite amie était bien amoureuse, oui, bien amoureuse. Et moi, je la trouvais assez gentille, ma foi. D'après tout le monde, on allait drôlement bien ensemble. Et je crois que c'était vrai. Et puis, elle est arrivée, l'autre là, avec ses taches de rousseur sur le nez. J'ai tout de suite su que j'étais fichue. »
À la première seconde, elle m'a électrocutée, cette fille. Je vous le jure, elle avait été fabriquée sur mesure pour moi. Depuis ses orteils mignons jusqu'à ses mèches blondes. Elle était toute jeunette. Pourquoi elle s'est jetée sur moi comme ça et pas sur un autre, je n'en sais rien. Je n'étais même pas beau. Elle m'a fait tourner chèvre. J'essayais de l'éviter, mais c'était impossible. Elle me cherchait. « Je t'aime », qu'elle disait. « Je t'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Je n'en voudrai jamais d'autre que toi. » Et ainsi de suite. Et je pleurais aussi, parce que j'en étais tombé amoureux. Elle m'a rendu fou, quoi.
Si bien que j'ai fini par écrire une longue lettre à ma pauvre fiancée. Comme je n'arrivais pas à le dire, je l'ai écrit. Je vous jure que j'ai trempé le papier de mes larmes, tellement j'avais honte, tellement j'étais malheureux. Je lui ai expliqué que j'allais partir avec une autre, que j'étais désolée, que la vie était mal faite, et bla bla bla. Vous savez bien les bêtises qu'on peut dire dans ces cas-là. Et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains, et je lui ai donné la lettre. C'était dans sa cuisine. Je me suis assis sur une chaise en face d'elle, tête basse, et j'ai attendu.
Elle a lu en silence jusqu'au bout, avec un grand calme. Puis elle m'a regardée sans aucune expression. Un peu comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai pensé, l'espace d'un instant, que rien n'allait se produire. Qu'elle me dirait « Eh ben, si tu veux me quitter, quitte-moi » et je partirai tout simplement. Que je l'embrasserai une dernière fois et qu'on se séparerait en bonne amie ou presque. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En effet, elle a replié la lettre, l'a posée sur la table, et puis, savez-vous ce qu'elle a fait ?
Elle s'est jetée sur moi. Ma chaise a basculé et nous avons roulé tous les deux au sol. J'ai bien tenté de me défendre, mais c'était sans espoir. Je me battais contre une véritable furie, une panthère en rage. Dans la lutte, elle a refermé sa mâchoire sur mon oreille et ne l'a plus desserrée. Vous avez compris maintenant ? C'est ma fiancée qui m'arrache cette oreille, avec ses propres dents. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette histoire, ne m'en parlez plus.
Le lendemain, il levait les bras au ciel. Vous me fatiguez avec cette oreille, je vous l'ai dit 100 fois. C'est un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormie contre un poêle et ça l'a brûlé, voilà.
Le lendemain, elle n'avait pas brûlé, mais je l'ai au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne, ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60 degrés. Vous vous rappelez ? Les oiseaux tombaient du ciel, congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Non, vous ne vous rappelez pas ? Vous êtes bien trop jeune.
Qu'importe, une nuit on nous désigne, un camarade et moi pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage, tout blanc, et nous voilà partis de la neige. Pas fiers. On accomplit tout de même notre mission, tant bien que mal. Seulement au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête, on se perd, on revient sur nos pas, on tourne en rond et on finit par se coucher dans la neige, serrés l'un contre l'autre.
Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. De temps en temps, on se criait « Ça va, toi ?» et l'autre répondait « Ça va !» En réalité, on était sûr d'y rester. Mais au matin, on a entendu des voix « Oh, les gars, vous êtes morts ?» On n'était pas morts, on était juste enfouis sous la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp.
Le capitaine se pointe, il nous félicite et puis il a voulu imiter Napoléon qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça dans des images sans doute. Bon, il prend la main entre le pouce et l'index et la secoue un peu. Seulement elle était gelée. Ça fait clink comme quand on casse un glaçon sous un toit. Clink et l'oreille lui est restée dans les doigts au capitaine. Vous auriez vu sa tête, ça vous embouche un coin, non ? Et pourtant c'est la vérité vraie.
Le jour d'après, son oreille n'avait pas gelé, mais avait été arrachée. Je n'avais que 6 ans lorsque ce terrible incident s'est produit. C'était un jeudi après-midi. Je me suis rendue au parc avec ma grand-mère et je me suis dirigée vers la balançoire avant de m'y asseoir. Je me suis balancée haut, très haut, quand soudain, crac ! La corde qui reliait la balançoire à l'arbre lâche. Je me suis retrouvée à plat ventre sur le sol, un morceau d'incisive juste sous mes yeux.
Quelques heures plus tard, me voilà chez le dentiste. Le verdict était clair. Il fallait m'arracher la dent cassée. Quand je le vois sortir son instrument de torture, je commence à paniquer. Il parvient à m'immobiliser et malgré les paroles rassurantes de ma mère, je suis toujours extrêmement tendue. À l'approche de la pince, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai brutalement tourné la tête et au lieu de m'attraper la dent cassée, il m'a arraché l'oreille. Maintenant que vous connaissez cette histoire, fichez-moi la paix.
Le lendemain, son oreille n'avait pas été arrachée, mais s'était coincée dans la porte d'un ascenseur. Je n'avais que 21 ans et j'étudiais à l'école de kiné de Toulouse lorsque cela est arrivé. Je profitais d'un long week-end de mai pour rendre visite à ma mère, Caroline, qui habitait au nord-est de Paris, au 16e étage d'un grand immeuble. Ce jour-là, je rentrais des courses, les bras chargés de toutes sortes de choses.
J'arrive devant l'ascenseur, il est plein. Mais vous pensez bien que je n'allais pas monter les 16 étages à pied. Alors je pousse un peu, pardon, et réussis à me glisser à l'intérieur. Les portes se referment sur mon côté droit. La petite fille en face de moi devient toute pâle et se met à crier. Son oreille ! Je tourne alors la tête vers la porte, sans lâcher mes courses, et aperçois, coincée entre les deux portes, mon oreille droite. Voilà comment j'ai perdu cette maudite oreille.
Le jour suivant, son oreille ne s'était pas coincée dans les portes d'un ascenseur, mais avait été tranchée lors d'un stupide accident de bricolage. Par économie, je n'avais pas voulu faire appel à un artisan et refaire moi-même ma cuisine, qui était devenue vieillotte. Il ne me restait plus qu'à poser le carrelage, qui avait besoin de quelques découpes. J'ai pris mes mesures, et bien décidé, j'ai attrapé ma disqueuse, j'allais bon train, je soignais mon travail, malgré le bruit assourdissant de mon outil. D'un coup, ma disqueuse commence à me trembler dans les mains, le disque se disloque, et en même temps, j'entends un fiout ! Un morceau de disque est projeté et me tranche l'oreille. Saleté de disque bon marché qu'on m'avait recommandé. Vous vous souvenez, ce magasin sur la 5e avenue ? Ah, aucune importance. Difficilement, j'ignore la douleur, je mets un chiffon sur ma blessure, mon oreille dans un sac plastique rempli de glaçons, et je vais à l'hôpital. Ils ont bien essayé de me greffer ma propre oreille, mais elle en avait décidé autrement.
Elle s'est nécrosée et a fini par partir, petit bout par petit bout. Voilà pourquoi je n'ai plus cette satanée oreille. Elle est morte.
Le lendemain, son oreille n'avait pas été sectionnée par une disqueuse, mais elle avait fondu. Je venais d'avoir 20 ans et je m'étais enrôlée dans l'armée. Je devais partir en mission dans la forêt avec des soldats nommés Philippe, Pierre, Maxime, Paul, Vincent et Julien. On était arrêtés. Il faisait froid et nuit. La température était de moins 20 degrés et il fallait faire à tout prix un feu. Je me revois comme si c'était hier. J'étais assis sur une chaise verte, puis je me suis endormie. Maxime est en train de boire une bouteille de vodka qu'il a jetée dans le feu. Et tout à coup, on a entendu un gros « boum ». Ça a explosé. Des bouts de braise volaient de partout. Je reçois un énorme morceau brûlant dans mon oreille droite et j'ai hurlé « ah !» comme si on me tuait. Il y avait un lac à 2 km. Mon équipe et moi courons à vive allure pour aller chercher de l'eau. Mais quand on est arrivé, c'était déjà trop tard. Mon oreille avait fondu.
Pierre et Philippe se sont évanouis à ce moment-là, tandis que Maxime et Paul se sont rendormis. Julien et Vincent, quant à eux, vomissaient leurs tripes dans un buisson. Quant à moi, j'avais tellement mal et j'étais si fatiguée que j'ai fini par m'endormir à mon tour. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, ma tête complètement bandée. Je voyais à peine. Puis j'ai demandé à une jolie infirmière nommée Marie de me retirer le bandage pour que je voie à l'aide d'un miroir l'oreille que j'avais perdue. Ça a été un choc. À ce moment-là, je me suis évanouie et je ne me suis réveillée qu'une heure après. J'ai pu rentrer chez moi une fois mon état stable. Voilà comment j'ai perdu mon oreille.
Le lendemain, son oreille n'avait pas fondu mais avait été sectionnée par une épée. Tout a commencé le jeudi 21 décembre 1905. J'avais 24 ans et j'étais chef des pirates bleus. Je suis en train de me battre sur le pont contre le commandant des chevaliers noirs avec son manteau vert, sa barbe rousse et ses bottes rouges. Jaune ? Oh, je sais plus trop. Ce que je sais, c'est qu'elles sont brillantes et qu'elles m'aveuglent.
Donc je me bats avec lui car il nous a volé la carte du trésor de l'île perdue. Vous le croyez ça ? Il fait froid, le vent hurle et les vagues rugissent. Le bruit des épées persiste. Clink, clank, clink. Le sol glisse et les portes claquent à cause du vent. Bref, tout pour nous faire perdre. Nous sommes sur le point de terminer la bataille. Le perroquet braille.
On va gagner, on va gagner.
Ça m'énerve profondément, à tel point que je veux le déplumer, ce maudit volatile. Je revois encore les rapaces qui tournent déjà autour de notre bateau.
Et là, coup de grâce, on entend les cris des pirates mourants et le triste mousse qui joue de l'accordéon. La pluie s'abat sur nous, l'épée glisse de la main du chef du camp adverse. Le perroquet prend peur. S'envole et percute l'épée. Celle-ci tournoie dans les airs, retombe et tranche mon oreille. Tous les moussaillons sont sous le choc. Depuis ce jour-là, je n'ai plus mon oreille.
Le jour d'après, il avait perdu à la suite d'un pari stupide dans le port de Java, ou bien vendu à un milliardaire à qui il en manquait une. Un ours la lui avait arrachée dans le Grand Nord canadien. Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait dans les fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Elle a été sectionnée par des pirates sanguinaires, tranchée par un mari jaloux, cuisinée au courbouillon par une femme folle.
6 années durant le vieil homme raconte chaque soir une histoire différente. Et il le faisait si bien que chaque soir on le croyait jusqu'à l'endemain.
Une nuit cependant, sa chaise resta vide à l'auberge. Le patron s'en inquiéta et, à la fermeture, il se rendit chez le vieil homme à quelques rues de là. Il le trouve mourant sur son lit, seul. La chambre était misérable, en grand désordre. L'aubergiste assista son ami de son mieux, sans songer à autre chose qu'à lui rendre un peu plus douce ses dernières heures d'existence.
Mais, au milieu de la nuit, voyant que la vie s'en allait, il lui vint une idée obsédante. Il résista un peu. À quoi bon ennuyer ce brave homme jusque sur son lit de mort ? Mais finalement, la tentation fut la plus forte. Il se pencha, tout près du visage du vieux, et lui souffla.
« S'il te plaît, pourrais-tu me dire, pendant que tu en as encore la force, comment tu as perdu cette oreille ? En vrai, cette fois. Je t'en prie, je le garderai pour moi. » Le vieil homme lui fit de la main le signe de s'approcher. Puis, d'une voix éteinte, il balbutia.
« Cette oreille ? Je ne l'ai jamais perdue, car je ne l'ai jamais eue. Je suis née sans.
Un léger sourire se dessina encore sur les lèvres pâles et rendit son âme. « Merci, dit l'aubergiste, merci. »
Quelques jours plus tard, en mettant de l'ordre dans les maigres affaires du vieil homme, l'aubergiste fut intrigué par une photographie ancienne. Une photo en noir et blanc avec ses bords dentelés. On y voyait un équipage sur le pont d'un bateau. Un peu en retrait de tous les autres, un jeune mousse, assis sur un tonneau, fixait l'objectif.
L'aubergiste trouva ce garçon un air de malice qui lui était familier. Il saisit une loupe et se pencha sur la photo. Il observa d'abord les yeux du garçon. C'est à l'œil qu'on reconnaît les gens. Pas de doute, c'était bien là le vieil homme du temps de sa jeunesse. Un détail pourtant stupéfiant l'aubergiste. Le gamin avait ses deux oreilles sur cette photo, une à gauche et une à droite, les deux bien en place.
Il fit glisser la loupe sur les mains, posée sur les genoux, revint au visage. Au menton, au nez, aux yeux surtout. Au droit, puis au gauche. Et là, il sursauta si fort que la loupe lui gicla des mains. Depuis l'autre côté de la mort, l'œil venait de lui faire un clin.